Paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le Paddock RMC, on vous l'avait promis, la saison de Formule 1 s'est terminée, mais on est toujours là, on va vous accompagner hein, jusqu'à la saison 2025. Vous savez que l'actualité de la F1, bah, ça ne se termine jamais, qu'il y a plein de choses à dire. Et on vous propose notamment pendant cette période de fête de faire le bilan des écuries, de rentrer vraiment dans le détail. Maintenant qu'on est à froid, que tous les ingénieurs du paddock ont pu se reposer, se replonger dans cette saison 2024, essayer de se replonger dans tous les détails croustillants qui ont fait cette année 2024. Aujourd'hui, on va parler de McLaren, bien évidemment, l'écurie qui a dominé cette saison 2024 avec des chiffres assez fous. Et puis on se penchera sur Red Bull. Voilà, ça sera un petit peu notre conseil de classe là, de McLaren et Red Bull. La semaine prochaine, focus sur Ferrari et Mercedes. Et puis vers le 31 décembre là, pour le 1er janvier, on se fera le milieu de plateau avec Alpine. Voilà, vous avez le programme là pour les 2-3 prochaines semaines. Les ingénieurs sont là, enfin plutôt le team principal est là, il est même rentré des États-Unis spécialement pour le paddock RMC. Voilà, c'est fort ce qu'il fait. Salut mon Jean-Luc. Jean-Luc
Croix est avec nous. Salut mon Nico, bonjour à tous.
La météo est pas la même hein.
Pas vraiment, non, pas vraiment, hein, la température non plus, mais bon. On est courageux, voilà. On est courageux.
L'ingénieur qui t'accompagne, il fait son comeback. Voilà, c'est un des plus beaux comebacks dans l'histoire de la Formule 1.
Voilà. Newey est jaloux. Newey est jaloux.
Eh oui, Newey est clairement jaloux. Salut Alex.
Bien le bonsoir.
Salut Alex.
Comment ça va, moi, Alex? Tu l'as kiffé cette fin de saison là, quand même, parce qu'on t'a pas eu depuis longtemps.
Bah, je l'ai bien kiffé. Il s'est passé tellement de choses entre Ferrari, McLaren et le titre de Verstappen qui est absolument magnifique. Mais vraiment, McLaren, ils m'ont régalé sur la fin de saison.
Bah, on va en parler tout de suite. Allez les gars, on se plonge dans ce débrief de cette saison de McLaren et Red Bull. Bon, pas besoin de vous redonner le palmarès, hein, les auditeurs et auditrices du paddock RMC qui consomment ce podcast, qui nous mettent des notes toutes les semaines parce qu'on est en train d'affoler les chiffres, nous aussi, comme McLaren, connaissent ça par cœur. Mais McLaren est champion du monde des constructeurs, bien évidemment. Ils ont gagné 6 grands prix cette saison. Il y en a eu 4 pour Norris, 2 pour Piastri. C'est 8 pôles et 21 podiums. Voilà un petit peu pour les chiffres. 666 points au classement. D'ailleurs, Jean-Luc, je regardais quand même McLaren en une saison sur cette année 2024 a fait mieux qu'en 2021, 2022 et 2023 quasiment. Ça correspond à peu près au même chiffre. C'est quand même très fort la restructuration de cette écurie-là, Jean-Luc. Au début de l'année 2023, McLaren n'était, je ne vais pas dire rien, mais en tout cas sur les 8 premières courses de 2023 jusqu'au Canada, c'est seulement 17 points la saison dernière. Ils font 5 courses à zéro et en 18 mois, ils ont réussi à tout inverser.
Oui, Nico, absolument, c'est un constat qui est impressionnant, hein, de toute façon. Alors, si tu veux bien, juste pour compléter, puis on va pas toujours à sommet de chiffres, comme je dis, parce qu'après on les oublie, ça fait quand même le 9e titre de champion du monde constructeur, ce qui les met au niveau de Williams, c'est ce qui leur permet d'en avoir un de plus que Mercedes. C'est quand même 189 victoires, c'est pas rien, hein, parce que bah, devant, il y a juste Ferrari avec 248 victoires, et puis c'est 140 pôles. Bon voilà, alors écoute, oui, bah, c'est un redressement absolument spectaculaire, qui signifie deux choses, et ça peut donner de l'espoir à d'autres, c'est qu'on peut redresser la barre même quand tout va mal, parce qu'effectivement, McLaren était nulle part, hein, il faut le rappeler, et on se demandait même ce que Piastri était venu faire dans cette galère, il faut le dire, lui qui avait un contrat, on s'en rappelle, Alpine, et qui en était sorti par tous les moyens, mais bon, on a plaisir à dire que les grandes écuries ne meurent pas, et notamment celle de Bruce McLaren, à qui il faut toujours rendre hommage, hein, et décédé, on le sait, en 1970, et créateur de cette équipe, qui avait gagné une course au volant d'une de ces McLaren, d'ailleurs, tu vois, j'ai bossé, mon Nico, c'était à Brands Hatch en 1967, c'est une vraie question de concours ça, et donc il avait créé son écurie en 66 et l'année d'après, mais c'était une course hors championnat, t'as le droit de pas le savoir, fallait aller la chercher celle-là, oui, non mais bon, tout ça pour dire que les écuries sont tellement proches, notamment évidemment, on parle toujours des quatre premières, bien sûr majoritairement, mais même dans le ventre dur de la Formule 1, que ça peut changer à tout moment, il suffit d'avoir un petit peu mieux travaillé que les autres pour rattraper les quelques dixièmes, voire parfois centièmes de retard qui sépare un raté d'une réussite, c'est-à-dire évidemment accéder à, entre autres à la Q3, bien se qualifier puis faire une belle course. Voilà.
Alex, qu'est-ce qui a fait que cette écurie-là, elle s'est redressée? Alors il y a eu une restructuration de fond, on le sait, et puis il y a eu l'arrivée d'Andrea Stella qui a changé énormément de choses il y a 2 ans, donc ça doit jouer, mais toi, sur quoi tu mets, voilà, cette restructuration, ce renouveau de l'écurie McLaren, pour toi, à quoi c'est dû?
Je pense que c'est surtout lié à la confiance. Je pense que le terme confiance, c'est le mot confiance, met réellement l'accent sur ce qui s'est réellement passé du côté de chez McLaren depuis le début de la saison dernière, hein, parce que le début de la saison dernière était catastrophique. Il faut se souvenir qu'il y a quand même eu un départ qui, pour moi, allait mettre McLaren à ce moment-là dans une grosse panade. C'était le départ de Andreas Seidel pour aller du côté de chez Audi. On sentait que Andreas Seidel avait chapeauté bien le retour de McLaren bien comme il faut. On se souvient en fin 2021, même la saison 2021 était très intéressante. Il y a eu la victoire de Ricciardo à Monza, mais dans l'ensemble, Norris avait eu une pole et était pas loin d'aller chercher la victoire aussi, c'était en Russie, à Sochi. Et puis Andreas Seidel se barre pour aller dans le projet Audi, où il n'est même plus d'ailleurs remplacé par Mattia Binotto.
Depuis, le jeu des chaises musicales a fonctionné, on dirait Alpine.
Voilà, c'est un peu ça. Et finalement, ça s'est bien goupillé avec Andrea Stella, qui était anciennement du côté de chez Ferrari et qui a connu aussi des heures compliquées du côté de la Scuderia Ferrari. Et puis tout s'est bien goupillé et tout le monde s'est fait confiance. Même quand il y a eu une grosse restructuration l'année dernière, où on a eu une direction technique qui a été divisée en trois pour beaucoup plus de liberté, paradoxalement d'ailleurs, et beaucoup plus de meilleure pensance, on peut dire ça ainsi. Et ça s'est très très bien construit. Il y a aussi un point de confiance qui est très important, c'est Lando Norris. Lando Norris qui a dit non à la meilleure écurie à l'instant T à l'époque, fin 2023, qui était Red Bull Racing, pour rester du côté de chez McLaren. Alors que, allez, on va le dire, rien prédisait que d'ailleurs cette saison 2024, McLaren allait se battre pour le titre constructeur qu'ils ont remporté et le titre pilote. Tout Lando Norris s'est battu et au-delà de cette difficulté et de cette adversité qui arrivait en cours de saison, parce qu'il y a une différence encore une fois entre se battre pour le titre mondial dès le début de la saison et le savoir qu'on va se battre pour le titre mondial dès le début de la saison, que le comprendre en cours de saison où y a des organismes, des personnes dans l'écurie qui ne s'était jamais battu jusque-là pour un titre mondial. Et du point de vue psychologique, même face à cette adversité, il y a eu de la confiance pour aller chercher ce titre constructeur qui était difficile à aller chercher. On est dans la saison la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1 avec 7 vainqueurs différents à plusieurs Grands Prix. Ouais. Et même d'ailleurs, il y a 4 écuries qui sont vainqueurs de Grand Prix cette saison, de multiples, il y a 5 écuries d'ailleurs, je crois, qui sont podium cette saison, en comptant donc Alpine qui est arrivée d'une manière miraculeuse. Donc c'est ça, c'est l'aspect confiance moi, qui résume bien McLaren cette saison. Même face à l'adversité, ils ont réussi à aller chercher un titre constructeur qui était âprement difficile à aller chercher.
Il y a eu dans la saison de McLaren, Jean-Luc, deux périodes phares. Il y a Miami, où tu as des évolutions et où là tu as vraiment l'impression que ça éclate. Et puis après, tu as peut-être Zandvoort, où d'ailleurs, je crois que d'ailleurs, c'est sur ce Grand Prix-là qu'ils ont une deuxième salve d'évolution qui arrive sur la voiture. Et à partir de Zandvoort, c'était déjà un peu le cas avant, mais là tu sens que voilà, ils ont pris vraiment le dessus sur tout le monde et qu'ils vont avoir la meilleure monoplace jusqu'à la fin de la saison. Ça a été aussi une montée en puissance hein, cette saison de McLaren dans les perfos, Jean-Luc. Et je rajoute que d'ailleurs McLaren n'a jamais cassé, il n'a eu aucun problème de fiabilité tout au long de la saison.
Piastri, Jean-Luc, le seul pilote, je crois, à avoir couvert tous les tours de la saison.
Exactement,
l'intégralité.
Il rejoint le cercle Lewis Hamilton et Michael Schumacher.
Absolument. Ils sont pas nombreux.
Donc Jean-Luc, il y a eu une vraie progression tout au long de cette saison et voilà la force de cette écurie, ça a été aussi de monter en puissance avec des évolutions, même si ils ont raté des choses et on va en reparler tout à l'heure. Malgré tout, il y a une vraie force collective qui s'est dégagée de McLaren.
Tout à fait. Alors Alex a raison de parler de confiance. Moi, je vais parler de mayonnaise et d'alchimie, ce qui revient exactement à la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, tu sais, tu peux mettre les meilleurs, on le sait en football, hein, par exemple, tu peux sélectionner les meilleures individualités. Tu leur dis, les gars, vous allez travailler ensemble, oubliez vos égos, vous allez vous passer la balle. Bon, là, en Formule 1, vous allez tous pousser dans le même sens. Vous allez... Et puis, ça prend pas. Et puis, parfois, effectivement, à l'occasion de changements, comme l'évoquait Alex aussi avec le départ de Seidel, qui n'était pas prévu, il y a un personnage, c'est pas qu'il bloque, hein, c'est pas qu'il est mauvais, mais l'alchimie se fait, la formule magique se crée presque toute seule, les gens se trouvent, les gens se comprennent, les gens poussent dans le même sens. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des mots. Derrière tout ça, il y a des améliorations techniques, tu l'as évoqué très clairement à Miami avec le nouveau fond plat, enfin après une refonte totale de la voiture. Pour ça que ce qu'on va nous présenter en grande pompe à Londres, et c'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 que ça arrivera, hein, c'est le 18 février février, si je me rappelle bien, avec le grand raout où il y aura toutes les écuries, tous ensemble, qui vont présenter, d'ailleurs, non pas les modèles 2025, puisque Ferrari a déjà dit, Vasseur a déjà dit, nous, ce sera juste après, le jour d'après, on présentera le 19 février. Donc, peu importe, les voitures évoluent en permanence. Et puis, on l'a souligné déjà dans le dernier paddock, mais j'aime beaucoup y revenir. Le règlement, il est tellement mal fait par certains côtés que quand il est bien fait, eh ben, on le dit et on s'en réjouit. Cette limitation, notamment des passages en soufflerie pour les meilleures écuries, a pour effet justement de réguler les améliorations et ça va permettre entre autres à Red Bull, qui n'est que troisième de la saison 2024, de mieux travailler, de plus travailler et donc potentiellement on peut voir revenir Red Bull et bien sûr Mercedes qui est quatrième derrière. Donc ça c'est intéressant Nico et ça veut dire qu'à tout moment dans une saison, même mal démarrée ou pas trop bien démarrée, c'était le cas de McLaren l'an dernier, eh ben on peut se redresser et puis on peut se battre pour le titre et pour les victoires à partir d'un moment, d'un GPG, j'allais dire, où on apporte des améliorations et où tout va bien. Puis du coup, les pilotes se sentent en confiance. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est une alchimie.
Parce que ça va être intéressant aussi pour l'année prochaine, Alex. McLaren, là, s'est développé et a appris à gagner. Il y a eu des erreurs, notamment oui, peut-être dans la gestion des pilotes, même au niveau stratégique. Voilà, il y a eu des erreurs, mais tu sens que ça a été vraiment une saison un peu d'expérimentation pour retrouver ce statut-là, pour voir comment gagner, apprendre à gagner. Est-ce que déjà ça va vraiment leur servir pour l'année prochaine, Alex, selon toi ?
Oui.
Et dans quel secteur, toi, tu t'aimerais voir des améliorations ? J'imagine que la gestion des pilotes, ça va être un des principaux sujets de la saison prochaine.
Hein. Et tu anticipes ma réponse, c'est exactement l'aspect de la gestion des pilotes, parce que ce soit McLaren ou justement Lando Norris et même Oscar Piastri, il ne s'était jamais retrouvé dans cette position. Lando Norris n'avait jamais eu dans sa carrière, alors qu'il est là depuis 2018,
c'est déjà un vieux briscard,
il n'avait jamais eu une voiture capable d'aller remporter régulièrement des Grands Prix. Qui donc régulièrement des Grands Prix veut donc dire capable de remporter un titre mondial à l'issue de la saison pilote, constructeur, c'est ce qui s'est passé. L'expérience notamment de Monza où ça a été où littéralement McLaren a perdu la course au profit de Charles Leclerc et Ferrari, l'expérience de ce qui s'est passé en Hongrie aussi entre Oscar Piastri et Lando Norris, où en fait cette situation a pu nettement être mieux gérée, ça a juste ajouté de l'eau dans le gaz sur la suite de la saison. Pour toutes ces raisons-là, McLaren a compris et les pilotes ont compris qu'il y a des erreurs qu'il ne faut plus faire pour justement se rapprocher de la perfection pour devenir champion du monde. Red Bull, cette saison, ils ont été très très loin d'être parfaits. Pourtant, l'expérience leur a permis d'aller chercher le titre mondial par justement Max Verstappen. Je prends juste un exemple de statistique. Si on commençait le championnat depuis le Grand Prix de Miami, Verstappen serait quand même devenu champion du monde. Ça veut dire que le pilote qui avait la troisième voiture et l'écurie qui avait donc la troisième voiture de la grille, eh bien, il serait quand même devenu champion du monde pilote de 724 de Formule 1 si on avait commencé à Miami. Preuve que Verstappen est le meilleur pilote du monde et incontestablement, mais surtout que Lando Norris et McLaren ont laissé filer tellement de points par les erreurs que justement quand on arrivera sur 2025, ils sauront où est-ce qu'il ne faut plus fauter et sur la manière aussi dont il faut acter les choses bien en amont et surtout débuter une saison en sachant qu'on est capable d'aller chercher le titre mondial. Et ça change beaucoup de choses.
Avant de basculer sur Red Bull, on se met quand même, les gars, dans l'optique où l'année prochaine, McLaren a la meilleure voiture et de loin. Ce qui, sur la fin de saison, peut laisser penser que ça
c'est
peut
vraisemblable,
se
produire, on va dire.
Allez. Voilà, sur le début de saison. Comment ils vont faire pour gérer Norris et Piastri ? Parce que tu as quand même l'impression que le Oscar derrière, là, lui, il ne sait pas qui tape à la porte, Jean-Luc. C'est que, voilà. Et Lando Norris, avec ce qu'il a affiché au niveau mental, ou en tout cas dans sa communication, il a été bon, mais voilà, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire dans les précédents paddocks. Il n'était peut-être pas armé mentalement pour lutter face aux ogres qui prétendent au titre de champion du monde. Voilà, il va y avoir un vrai sujet, même au sein de l'effectif, là, s'ils ont de l'écurie. S'ils ont ça la saison prochaine, la meilleure voiture, gérer les deux, ça va être compliqué, Jean-Luc. Hein.
Absolument, Nico. Ce sont des problèmes de riches que toutes les écuries rêvent d'avoir, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on a, c'est le postulat, on a la meilleure voiture, on a la meilleure équipe, on est capable de décrocher les deux titres à la fois. Donc, ça, potentiellement, c'est vrai, à la minute où nous parlons, c'est vrai. On va attendre, comme le dit avec beaucoup d'expérience Fred Vasseur, on ne pourra rien savoir avant les essais officiels du premier Grand Prix à Melbourne. Même les essais privés à Bahreïn, moi j'en tirerai que des leçons vraiment très, très mesurées. Donc bon, c'est quand on est, c'est le cas de le dire, au pied de la qualif qu'on voit, et au pied de la qualif je dis bien, même pas les essais libres, qu'on voit vraiment où on en est. Bref, quand il va devoir gérer les deux pilotes, bah, écoute, on sait qu'Oscar Piastri, pour moi, c'est un killer. Je l'ai dit depuis longtemps, c'est un méchant, c'est un teigneux, il a peur de rien, il a aucun scrupule, son attitude est étonnante de maîtrise pour un jeune garçon.
Il
encore,
gagne le Grand Prix d'Hongrie, on dirait qu'il a juste sorti les poubelles. Quoi.
C'est exactement ça. Il est dépourvu d'émotions apparentes, il en a probablement. Hein. On rappelle qu'il est né quand même le 6 avril 2001, ça fait très longtemps. Hein. Il va avoir bientôt 24 ans seulement. Ils n'ont pas tellement d'écart d'ailleurs d'âge, puisque Lando Norris, c'était lui le 13 novembre 99, tu vois, donc il y a en gros un an et demi entre les deux garçons. Mais Norris a débuté beaucoup plus tôt pour lui, puisque c'était à Melbourne en 2019, alors que Piastri, ça n'était qu'à Bahreïn en 2023, 4 ans plus tard. Donc bref, tout ça pour dire que Piastri considère qu'il n'a pas de temps à perdre, lui déjà. Norris, j'ai beaucoup de respect pour lui, encore une fois, c'est un type bien, mais pour moi, il n'est pas assez méchant, il n'a pas assez fin, je le dis clairement, et je l'avais déjà dit en cours de saison, je pense qu'il va devoir faire très attention à cet équipier encombrant, et il n'y aura pas de consigne évidemment au début, ce sera chacun pour soi, même si on prend les stats, c'est vrai que cette année, Norris a dominé Piastri, mais Piastri avait moins d'expérience, et puis il était dans son rôle, il a rechigné parfois à respecter totalement les consignes qui étaient un peu floues. Je pense que l'an prochain, c'est chacun pour soi, en tout cas en début de course, et on fera les comptes peut-être au bout de 5, 6, 10 Grands Prix, et moi je mise sur Piastri, voilà, je me mouille.
En tout cas, bon courage à Zach Brown et à Stella là, pour gérer ça.
Ah ouais, ouais.
Hein.
Je rajoute juste un point, notamment, mais encore du point de vue statistique, parce que j'adore ça, hein, je vous le dis, hein, j'adore les statistiques, mais depuis la trêve estivale, depuis le retour de la trêve estivale, c'est quand même pas beaucoup de points d'écart en termes de pourcentage de prise de points d'écart entre Piastri et Norris. 58% ont été pris par Norris sur McLaren et 41% pour Piastri. C'est pas énorme pour un pilote contre un pilote qui se battait pour le titre mondial.
Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, de toute manière, ça va être la vraie bagarre l'année prochaine.
Ouais.
Les gars, on se penche sur les copains de chez Red Bull. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, l'info qui vient de tomber, c'est que Sergio Pérez n'est plus.
Ah bon, c'est pas Ricciardo qui revient alors.
J'ai une pensée émue pour Daniel Ricciardo, pour être honnête, mais.
Moi aussi. C'est un mec que tout le monde aime bien. Ouais,
alors, ils ont fini par se mettre d'accord. Ils ont laissé le soin à Pérez de l'annoncer lui-même.
On nous a pas dit combien.
Exactement. On nous dit pas combien contractuellement ils sont mis d'accord, bien évidemment. L'autre annonce, c'est que c'est Liam Lawson qui va remplacer Pérez dans le baquet Red Bull. Pas de surprise, même si Tsunoda, après ses essais à Abu Dhabi en début de semaine, avait dit que les ingénieurs étaient impressionnés par son feedback et tout ça. Le pauvre Tsunoda, quand même, lui, il reste à quai, il reste chez l'écurie satellite de chez RB. Et conséquence directe, Isaac Hadjar va piloter en Formule 1, les gars. Troisième pilote français. Qui sera dans un baquet de F1 aux côtés de Tsunoda l'année prochaine. Mais nous, on va se focaliser vraiment sur Red Bull là. Bon, cette info, on va peut-être y revenir plus tard parce que bon, c'était tellement attendu. Moi, je voulais vous lancer, Jean-Luc, sur cette saison de Red Bull et sur cette voiture, la RB20, qui a été peut-être un petit fiasco quand même. Quand tu vois la courbe de l'évolution de la performance, quand tu vois comment ils ont débuté cette saison-là à tout gagner avec un Pérez qui était performant et derrière comment ça s'est effondré, il a terminé peut-être en termes de perf derrière Mercedes, tu te dis que cette voiture-là, elle est mal née, Jean-Luc, non ?
Absolument. Bah écoute, je vais te reprendre une formule que j'aime beaucoup, hein, parce que je pense qu'elle est proche de la réalité. C'est pour ça que je prélude et je préjuge de ce qu'on va dire un jour sur Alpine, enfin Enstone plutôt. Pardonne-moi, c'est un faute de vocabulaire. Donc simplement, il y a maintenant, il y a quelques centièmes de seconde dans les moteurs. Il y a évidemment des dixièmes de seconde dans l'aéro et il y a des secondes pleines dans les pneumatiques. Tu me vois venir. C'est-à-dire qu'une monoplace, maintenant, elle doit être capable d'exploiter la fenêtre très serrée de pneumatiques réservée par Pirelli. Et on sait que cette fenêtre, 100, il n'y a pas de secret absolu, c'est 4-5 degrés maximum. Ça veut dire que c'est autour de 110 degrés à la louche. Si tu mets tes pneus à 105 degrés et les 4 ensemble, hein, et sur un tour complet, et sur plusieurs tours même, tu vois un peu la difficulté, donc l'équilibre qu'il faut et les capacités de réglage d'un pilote, et tu es au-dessus de 112, 114 degrés, ça y est, les pneus ils sont cramés, ils partent complètement. Les pilotes nous le disent d'ailleurs en course, hein, ça y est, j'ai perdu l'avant gauche, j'ai perdu. Bon, donc la capacité extraordinaire de Max Verstappen de régler cette monoplace rétive et de la mettre dans la bonne fenêtre, c'est ça la différence. Et même lui, il en a bavé, le mot est faible, et il en a chié pour être taillé 10 000 dollars. Il a vraiment souffert, alors que le pauvre Pérez, même s'il avait accès évidemment à toutes ces données, il n'a pas le même style de pilotage probablement, il n'aime pas la monoplace réglée de la même manière, et le problème est là. Et là, moi, je souhaite beaucoup de courage à Liam Lawson, oui. Parce qu'avec le monstre, enfin, il n'a qu'à souhaiter que la RB21 peut-être soit mieux née que la RB20, parce que si c'est aussi difficile à piloter, bah bon courage. Avec 11 Grands Prix dans la musette, mon gars, là, t'es pas sorti de l'auberge non plus. Hein.
Ouais. Ou alors... ouais, parce que...
Ah oui.
Ouais, bah c'est clair. Mais parce que ça, c'est aussi une des conséquences politiques et stratégiques de Red Bull, Alex. C'est que c'est la politique du tout Verstappen, en fait. T'as l'impression que le numéro 2 chez Red Bull, il doit composer avec la voiture de Max, les éléments techniques développés pour Max, et que Perez, là, cette année, il a vraiment galéré avec ça. Il avait su s'en contenter sur les saisons d'avant et arriver à décrocher quelques perfs, mais là, c'est trop dur. Donc pour Lawson l'année prochaine, déjà, est-ce que Red Bull peut faire évoluer ce fonctionnement-là, ou tu penses que ce sera tout Verstappen encore la saison prochaine et que ce sera ça, ils vont pas faire évoluer leur politique, et est-ce que tu penses qu'ils doivent un petit peu plus valoriser leur deuxième pilote peut-être ?
Valoriser le deuxième pilote, je ne sais pas, parce que déjà, quoi qu'il en soit, Liam Lawson, c'est une énorme prise de risque, hein, parce qu'on parle quand même d'un pilote qui a, je pense, une dizaine de Grands Prix, au moins de 10 Grands Prix.
11 au total, 6 cette saison et 5
à l'évoquer il y a un instant.
C'est
11
extrêmement peu pour aller signer dans la meilleure écurie, l'une des meilleures écuries de la grille, une écurie qui est championne du monde en titre pilote.
Alors qu'on a Dean Gressens quand il était sur le marché.
Aussi,
on
n'a
pas voulu recruter Sainz.
Ouais, et pour des questions relationnelles, famille Verstappen, famille Sainz. Et que c'est une énorme prise de risque. Je ne sais pas comment Liam Lawson pourra réellement et sincèrement s'en sortir. Alors oui, c'est un pilote qui a beaucoup de talent. Il a gagné des courses dans chaque championnat dans lequel il a participé avant de venir en Formule 1. C'est un gars qui est extrêmement talentueux, ça j'en suis conscient. Mais on avait dit la même chose de Pierre Gasly.
De Nick De Vries, d'Alexander Albon.
Ils se sont tous cassés les dents dans l'univers Red Bull, dans l'univers Red Bull Racing plus particulièrement.
Et de Pierre Gasly, évidemment.
Et en plus, Gasly, il avait l'expérience intéressante de Toro Rosso, de la Scuderia Toro Rosso à l'époque, et il avait de quoi et des bagages pour venir du côté de chez Red Bull Racing. Et là, en fait, on a fait un énorme pas en arrière du côté de chez Red Bull Racing, c'est-à-dire que on avait pris un Sergio Perez à l'époque pour la saison 2021 de Formule 1 parce qu'on avait peur de retomber dans les travers de prendre un jeune pilote de la filière, et puis finalement on sort de Perez pour reprendre un pilote de la jeune filière qui a encore moins d'expérience qu'Alexander Albon que justement d'un Pierre Gasly. Donc là, bon courage à Liam Lawson, et je pense sincèrement pas que Red Bull a pris une bonne décision en mettant Liam Lawson. Mettre un Yuki Tsunoda aurait été, du point de vue de l'expérience et du point de vue même relationnel avec Honda,
tout à fait d'accord avec.
Aurait été peut-être plus judicieux pour tout le monde d'ailleurs, et notamment pour Yuki Tsunoda, où je pense que la carrière en Formule 1 va peut-être se terminer à la fin de la saison prochaine.
C'est vrai, mon Jean-Luc, que ça doit quand même être dur là pour Yuki Tsunoda. Après tout ce qu'il a fait, le gars 4 ans dans l'écurie satellite, le voir comme ça se faire doubler là sur la ligne par Lawson, bah d'ailleurs c'est un peu incompréhensible. Surtout qu'il était appuyé par Honda en plus, Tsunoda. Enfin voilà, il y a vraiment Honda qui a essayé de peser dans la décision jusqu'au bout. Et il se fait griller là par Lawson, ça doit être difficile pour lui. Hein.
Bah écoute, mon Nico, c'est profondément injuste. Là j'y vais carrément. Moi je pense que c'est un choix risqué. On l'a déjà dit, hein. C'est un choix risqué d'avoir pris Lawson, qui a quand même une expérience très limitée en Formule 1, alors que Yuki Tsunoda, lui, a une expérience solide et qui s'est amélioré et qu'il réalise la meilleure saison de sa carrière. Il totalise quand même 30 des 46 points de l'écurie. Il a allumé pratiquement ou même complètement tous les équipiers qu'il a eus, les uns après les autres, hein, à commencer évidemment par De Vries, Ricciardo, Lawson, il fait quand même beaucoup, beaucoup mieux que lui. Hein. Il n'y a pas photo. En qualif, 6 à 0 et en course, 8 points quand Lawson en prend 4. Donc, moi, je trouve ça profondément injuste. Alors, on sait bien qu'en Formule 1, bah, le talent du pilote n'est qu'une petite composante du choix final. Je n'ai absolument rien contre Lawson, encore une fois. On va lui laisser essayer de faire ses preuves et essayer d'exister. Mais je le dis et je le redis, c'est ta question. C'est profondément injuste pour Tsunoda.
Alex, est-ce que c'est une saison charnière pour Red Bull l'année prochaine? Parce que, bah, en termes de perfo, il va falloir qu'il montre autre chose. On sait aussi que Verstappen est courtisé. D'ailleurs, il l'a dit, hein, enfin, ça a fuité là. Il l'a dit ouvertement, il a dit que il était resté chez Red Bull, mais que les discussions avec Mercedes avaient été sérieuses et plutôt constructives. Donc voilà, en plus, il laisse la petite porte entrouverte, Verstappen. Est-ce que c'est une saison vraiment charnière là, l'année 2025 pour Red Bull?
Oui, ça l'est clairement, parce que de toute façon, si Red Bull ne fonctionne pas, Verstappen partira à celui qui aura la meilleure voiture potentiellement, on ne sait pas, hein, mais Aston Martin, à titre d'exemple.
Ah, bah moi, je le vois bien.
Ouais, ouais, Aston Martin, à titre
d'exemple.
À partir
de 2026.
Si fin 2025, ça montre des signes encourageants vis-à-vis de 2026, où ça deviendra une écurie à 100% constructeur en Formule 1, avec un moteur exclusif justement avec le moteur Honda, bah, il peut totalement partir. Je prends toujours l'exemple de Ayrton Senna. Ayrton Senna, quand ça allait mal chez ça allait moins bien du moins du côté de chez McLaren, et que Williams, avec l'électronique qui arrivait sur la voiture, était flamboyante, extrêmement intéressante et ambitieuse pour aller remporter les titres mondiaux, bah, Ayrton Senna, il voyait très bien que c'était mieux chez Williams. Il voulait quoi? Il voulait aller chez Williams pour aller gagner. Et puis,
il est resté fidèle, hein, quand même, la fameuse la fameuse course de Donington.
Exactement.
Sais, McLaren est tellement inférieur. Ouais. Il est resté solide, et puis à un moment, bon, il n'a plus pu résister.
Bah oui, c'était difficile de résister. Et bah, c'est pareil pour Max Verstappen. Verstappen, s'il y a une meilleure écurie qui le montre d'une manière assez fondamentale et foncièrement qu'ils sont meilleurs que Red Bull, Verstappen, contrat ou pas contrat, il ira au plus offrant, il ira à celui qui aura la meilleure voiture. Donc oui, c'est absolument charnière pour Red Bull. Aucun pilote au monde et aucun sportif au monde, j'ai même envie de dire, ne va pas aller là où il y a les meilleures armes. Je prends l'exemple de Mbappé. Mbappé, il va au Real Madrid parce qu'il le dit très bien, il faut gagner chez les meilleurs. Et justement, prochainement, il faut le dire, peut-être qu'Aston Martin sera meilleur, peut-être que Ferrari sera...
Avec l'arrivée de Newey, on l'a pas cité.
Bien sûr, qui
sera sorti de son jardin, là,
aussi.
Officiellement.
c'est clair. Peut-être que Ferrari, ce sera compliqué d'y aller, mais du moins, Mercedes ou Aston Martin. Et c'est vrai que les discussions étaient très intenses entre le clan Verstappen et le clan Mercedes, où aussi Toto Wolff a envie d'avoir un Max Verstappen, parce qu'il sait que c'est le meilleur pilote à l'heure actuelle sur le marché. Et il aura aussi un bon casse-tête Toto Wolff en devant dire à George Russell, écoute, merci, au revoir.
Oui.
En fait, la lecture de cette saison, elle est difficile pour Red Bull, parce que moi, j'arrive pas à savoir si c'est une année assez extraordinaire, Jean-Luc, parce que ils avaient pas la meilleure voiture et clairement, t'arrives quand même à aller toper le titre de champion du monde pour Verstappen, ou si c'est une année décevante. Parce qu'en fait, on avait tellement été subjugué par la RB19 que quand tu vois cette voiture-là qui a été mise au point, tu te dis qu'ils sont forcément passés à côté, quoi. En fait, vraiment cette saison de Red Bull, tu vois, il y a le côté blanc d'un côté avec le titre de Verstappen et le côté noir où tu te dis qu'ils sont passés à côté de plein de choses. C'est très bizarre.
Bien sûr que c'est une chute brutale de performance, ça c'est une évidence, comme on l'avait vu après la période Vettel, hein, ça a été pareil, il y a eu les 4 titres consécutifs de Vettel et certains titres constructeurs à la clé. Après, il y a eu l'énorme période Mercedes, mais tu sais, mon Nico, c'est toujours un peu la même histoire. Plus ces périodes de domination, j'allais dire, sont longues, plus on s'approche de la fin. C'est la logique absolue.
Donc il
fallait bien qu'à un moment, surtout compte tenu des écarts de performance qui n'ont jamais été aussi réduits en Formule 1. Alors là, je sais ce que j'affirme, jamais. Surtout si on prend l'ensemble de la grille. Alors là, c'est sidérant, parce qu'on a connu des époques où, à partir du 10e, on était à 2, 3, 4 secondes. Il suffit de reprendre les chiffres, hein, ça existe partout. Ouais. Donc là, à l'inverse, si on n'est pas dans la seconde, on est largué. On n'est même pas en Q3 et on n'est même pas dans les points. Alors que les 10 premiers marquent des points. Donc ça veut dire que l'écart de performance est tellement réduit. Donc une nouvelle fois, ça n'est pas que Red Bull a régressé, c'est que Red Bull a moins progressé que ne l'a fait McLaren, dont on vient d'abondamment parler, que ne l'a fait Ferrari, bien sûr, sous l'égide de Fred Vasseur. Et il l'avait dit au départ, il avait dit, il va me falloir à peu près 2 ans pour mettre en place ce que je souhaite. Bah, ça a été le cas dans la deuxième moitié de cette saison 2024. On a bien vu que chez Ferrari, ça allait mieux. Et puis Mercedes, alors là, même eux, ils ne savent rien dire. Ils ne savent pas pourquoi ça marche sur certains Grands Prix et pourquoi ils ne mettent pas un pied devant l'autre au suivant. Les pilotes ne savent pas, les ingénieurs ne savent pas et même Toto Wolff, qui sait tout sur tout, il ne sait pas non plus. Alors là, il y a quand même un problème.
J'ai la question à 10 000 là, avant qu'on termine ce podcast. Est-ce que vous voyez Verstappen capable de refaire un exploit s'il n'y a pas d'amélioration sur la monoplace et tout ça, avec la concurrence de l'année prochaine? Est-ce que c'est faisable ou ce qu'il a fait, c'est vraiment surhumain, il pourra pas le rééditer?
C'est surhumain cette saison. Sincèrement, c'est incroyable. Après, Verstappen est le meilleur pilote du monde, incontestablement, et capable de faire une telle face à l'adversité tout en ne faisant pas de faute. Mais au bout d'un moment, il faut avoir les mêmes armes que les autres. Là, l'année prochaine, McLaren sera certainement encore plus forte. Ferrari est sur une excellente pente ascendante avec une incroyable saison au-delà de Ferrari, mais une incroyable saison de Charles Leclerc lui-même, où il fait sa meilleure saison en Formule 1 en 2024, Charles Leclerc. On aura aussi Hamilton du côté de chez Ferrari. Chez Mercedes, je mets un énorme point d'interrogation, mais ils seront potentiellement là de manière assez régulière en prenant en compte les erreurs qui ont pu être réalisées du côté de chez Mercedes en interne. Donc, du côté de chez Red Bull, même Pierre Vacher, il a concédé qui est dans la direction technique, qui a dit « Bon, 2025, on ne s'attend pas à grand-chose, enfin, on s'attend à être dans le mal. » Ouais, j'ai du mal à avoir un nouvel exploit surhumain de Max Verstappen, parce que là, surtout que là, l'année prochaine, on va démarrer tout, enfin, on va pas démarrer la saison à Miami, hein, on va démarrer la saison 5 courses avant, donc ça fera beaucoup de points.
Alors moi, mon Nico, je dirais, c'est pas du tout pour prendre le contre-pied d'Alex, mais moi, j'aime y croire, parce que j'admire, je le dis franchement, j'admire Verstappen. Ce qu'il a fait cette année, pour moi, c'est effectivement surhumain, c'est le mot qu'a utilisé Alex il y a un instant, et je pense que ce type-là est surhumain, il est au-dessus du lot, et je pense qu'il va profiter... Tu vois, je prélude justement des potentielles dissensions au sein de l'équipe McLaren, parce que justement, il va mettre le coin là où il faut. Lui, il va être là, parce que moi, je vois pas Lawson venir concurrencer Verstappen, jamais. Ouais. Je me mouille, là non plus. Il va faire son boulot. Si tout va bien, il sera à moins de 5 dixièmes, ce qui sera déjà un exploit, mais il sera pas à 2 dixièmes. Enfin, ou alors, c'est qu'il est vraiment très très bon. Et surtout, si la machine est délicate à exploiter, parce que c'est là qu'on voit. Là aussi, si la Red Bull est redevenue dominatrice, pourquoi pas? Ah bah là, ok, bah là, Lawson, il peut enquiller des deuxièmes places, hein, lui aussi, comme l'a fait Perez. Et quelques victoires au moment où Verstappen aura des soucis. Mais ça ne va pas être comme ça, à mon avis. Ça va être très serré. Et donc, chez Ferrari, là aussi, on va voir comment se passe la cohabitation entre un vrai monstre, Hamilton, et un excellent pilote qui est chez lui et qui connaît tout le monde et qui a quand même pris une claque au début de saison quand il a appris l'arrivée d'Hamilton, je suis désolé. Surtout qu'il s'entendait tellement bien avec Sainz. Et vous avez vu les hommages appuyés à Carlos. Bon, on n'a pas pu faire plus chez Ferrari, on l'a même offert sa monoplace celle avec laquelle il a triomphé en 2022. Je peux te dire que c'est réservé qu'à de très très grands pilotes. Hein. Sur la liste, de mémoire, il y a eu des Niki Lauda, dans les pilotes Ferrari qui ont reçu, Schumacher évidemment, mais qui ont reçu vraiment des monoplaces comme ça, données en fin de saison, alors qu'ils n'ont gagné que quelques Grands Prix, qu'ils n'ont pas été champions du monde, c'est rarissime. Ça veut dire qu'il est apprécié au plus haut niveau. Donc je pense que Verstappen, pour répondre à ta question, mon Nico, va mettre le coin et va peut-être profiter de situations plus tendues chez McLaren, on l'a dit, chez Ferrari, on vient de l'évoquer, et puis chez Mercedes, je sais pas ce qui va se passer, comme tout le monde. Mais il est capable de passer entre les gouttes, le bougre, et surtout, si on a des Grands Prix avec de la pluie, parce qu'il est tellement au-dessus du haut. Là, il va se balader, il va surfer sur la vague, c'est le cas de le dire.
Ça, c'est clair. Vous m'avez fait un teasing parfait. On appelle ça un teasing pour la semaine prochaine où on va parler de Ferrari et de Mercedes. Merci beaucoup, les gars, pour ce petit bilan là, McLaren, Red Bull. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, joyeux Noël quand même. Nous, on est là, Formule 1, mais c'est quand même la période de fête. Faut en profiter. D'ailleurs, je crois que les pilotes aussi, les membres des écuries, ils vont bien en profiter. On se retrouve la semaine du coup de Noël, le 26, pour un épisode spécial Ferrari et Mercedes. D'ici là, vous continuez à nous noter. Vous savez que c'est super important pour le podcast, parce que le paddock RMC, ça s'arrête pas pendant la trêve hivernale. Non, nous, on sera là toutes les semaines. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.
Salut.
Le paddock RMC.